Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Pénurie dans l'éducation nationale en France, mais aussi en Allemagne. Les professeurs se font de plus en plus rares. Une crise des vocations qui touche surtout les matières scientifiques. À une semaine de la rentrée, il manquait 1300 professeurs dans la ville de Berlin. La solution, recruter des professionnels qui n'ont aucune compétence en matière de transmission du savoir, mais qui ont des connaissances sur la matière enseignée. Julien Méchaussé s'est rendu dans l'établissement scolaire Gustav Heinemann au sud de Berlin, une école qui a fait le pari d'embaucher ses professeurs très débutants.
Avoir ses élèves qui le saluent avec plaisir lors de la pause déjeuner, il semble bien qu'Andreas Fischer ait réussi son pari de repartir à zéro. Pour la seconde année, il enseigne les mathématiques et l'informatique. Face au manque de professeurs, Berlin recrute à tour de bras et les médias se sont empressés de dénoncer une politique du bouche-trou sans réelle vision à long terme. Andreas Fischer y voit au contraire un enrichissement pour l'école. Ancien chef de produit de logiciels, il faisait l'intermédiaire entre clients et programmeurs de son entreprise. Une ancienne vie pas si éloignée de son nouveau métier.
Cette expérience d'intermédiaire entre plusieurs univers m'a beaucoup aidé. Au bout du compte, c'est la même chose. Je dispose d'informations, d'idées, et je dois les formuler de telle manière que mes élèves les comprennent et puissent utiliser ces nouvelles connaissances. Ce n'est pas si différent de ce que je faisais avant en tant que chef de produit. Bien sûr que j'ai connu des difficultés, pas tellement sur le contenu des cours ou sur la pédagogie, mais plutôt en matière de discipline. Chez les préados, avec la puberté, ça rend les choses plus compliquées. Alors oui, au début, j'ai été surpris. Et puis, quand vous avez une heure de cours avec des jeunes de 16 ans, et qu'après une pause de 5 minutes, vous avez en face de vous des enfants de 11 ans, la transition n'est pas toujours évidente.
Une adaptation qui s'est faite sur le tas. Comme un nouveau professeur sur trois à Berlin, Andreas Fischer a une autre vie professionnelle avant l'enseignement. Si ces novices profitent d'une formation continue d'un an et demi en plus de leurs cours, Carsten Hitze, directeur de l'établissement qui est à la fois collège et lycée, tient à les accompagner à leur début, un peu plus que les jeunes professeurs qui ont suivi des études spécifiques pour enseigner.
J'assiste au premier cours, cela me permet ainsi de donner des conseils. Au-delà du savoir, le professeur doit d'abord créer un lien personnel avec ses élèves. Et pour cela, il n'existe pas de recette universelle. C'est une compétence qui naît avec le temps, selon sa personnalité, son caractère. Le but étant que le professeur et les élèves soient heureux.
Le cours était sur l'identification du groupe sanguin chez les humains. Pour la rentrée, j'ai décidé de revenir sur un sujet que nous avions déjà traité l'année dernière.
En cette semaine de rentrée scolaire, Dirk Jorke a choisi de commencer en douceur. Mais cela n'a pas toujours été le cas pour ce professeur de biologie et de chimie. Ancien chercheur à l'université, il a passé plus de 10 ans à travailler sur les structures biologiques pour éviter le rejet de prothèses.
Quand on a derrière soi une carrière de chercheur universitaire, il est très difficile de jauger ses élèves, de se mettre à leur niveau. Au début, les cours étaient bien trop denses. Aujourd'hui, je procède autrement. Quand j'ai une heure de cours, je me fixe des objectifs moins ambitieux avec un contenu plus accessible.
Avec Dirk Jorke et Andreas Fischer, le directeur de l'établissement Gustav Heinemann, Carsten Hinze, a trouvé les perles rares. Mais ce n'est pas toujours le cas.
Il est déjà arrivé qu'un nouveau collègue, dès son premier jour ici, après sa première heure de cours, ait tout de suite compris qu'enseigner n'était pas fait pour lui. C'est une situation très dure pour l'école, puisqu'il faut se remettre à chercher un nouveau professeur. Mais il vaut mieux ça, plutôt que quelqu'un qui s'entête alors qu'il n'a pas la vocation pour enseigner.
Quelques semaines avant la rentrée, il manquait encore 1300 professeurs dans les écoles berlinoises. Campagne d'affichage, embauche à l'étranger et d'enseignants venus du privé réalisés parfois dans l'urgence ont permis d'éviter une rentrée chaotique. Mais cela ne suffit pas. La ville a déjà annoncé vouloir sortir de leur retraite d'anciens professeurs.
« C'est finalement la droite qui a remporté de justesse les élections législatives hier en Norvège. La chef du gouvernement Erna Solberg va donc former une coalition avec les conservateurs et les populistes. Aux côtés de l'immigration, l'écologie a été un des thèmes forts de cette campagne. Mais le parti écologiste dont on annonçait les beaux scores ne devrait pas dépasser la barre des 4%. Guerre étonnante dans un pays qui est le plus gros producteur de pétrole d'Europe de l'Ouest, Grégory Tervel.
Oui, la Norvège est devenue en 50 ans le pays le plus riche d'Europe grâce au pétrole et à l'excellente gestion de ses revenus. Le pays de 5 millions d'habitants possède le plus gros fonds souverain au monde, 800 milliards d'euros, une fortune réservée pour les générations futures de l'après-pétrole.
Et est-ce très étonnant, Grégory, de voir un pays qui doit toute sa richesse à l'or noir s'interroger sur les bienfaits d'une industrie pétrolière qui emploie 200 000 personnes ?
Oui, c'est loin d'être une nouveauté d'entendre parler d'environnement dans le débat politique norvégien, même s'il n'y avait pas de parti étiqueté écologiste jusqu'à présent. Mais cette année, un lien a été clairement posé entre l'activité pétrolière et gazière de la Norvège et la lutte contre les changements climatiques. Et ça, c'est nouveau. La chute des cours du pétrole et la signature des accords de Paris sur le climat sont passés par là et incitent de plus en plus de Norvégiens à privilégier la question environnementale. Dans un récent sondage, un Norvégien sur deux se disait prêt à laisser une partie des hydrocarbures au fond de la mer afin de limiter les émissions de CO2 du pays.
Merci Grégory Tervel à Oslo. Les habitants du Vésuve, près de Naples, se mobilisent après les terribles incendies qui ont ravagé la région cet été. Alors que les pouvoirs publics brillent par leur inertie, les initiatives se multiplient sur les réseaux sociaux afin de replanter les arbres. En Italie, Cécile Debarge.
L'idée est née alors que le Vésuve était encore entouré par les flammes et que des milliers d'hectares du parc naturel du volcan partaient en fumée. Lors des réunions publiques organisées par les habitants, ils répètent à l'infini « Si l'État est absent, nous nous occuperons nous-mêmes de sauver notre territoire ». Car même si l'État italien a envoyé tous ses renforts de pompiers et de forces d'intervention spéciales, les habitants, eux, ont été choqués par la disposition des foyers d'incendie. En formant un cercle parfait autour du volcan, il ressemblait surtout à la signature des organisations criminelles locales. Aussitôt, une quinzaine de Napolitains fondent le groupe Bénévoles pour le Vésuve et relaient sur leur page Facebook les initiatives organisées par la société civile. Devant les images apocalyptiques de la forêt calcinée, tous se demandent comment replanter les arbres disparus. La première idée est celle d'un financement participatif via la plateforme napolitaine Meridonare qui a mis ses services à disposition. L'argent récolté servira à acheter gants, sacs, outils de jardinage pour nettoyer la zone et y replanter ensuite un par un les arbres brûlés cet été. Un projet ambitieux qui se heurte toutefois à la législation italienne en la matière. Après l'incendie d'un parc naturel, il est en effet interdit de planter des arbres pendant 5 ans. La récolte de fonds officiels commencera donc d'ici quelques semaines, même si les dons et les premières offres de collaboration sont arrivées dès les premiers jours après l'incendie. En attendant, l'association préfère miser sur des opérations de sensibilisation auprès des habitants, alors que samedi 9 septembre, une dizaine de supporters de football ont, eux, décidé de replanter quelques arbres en bordure du parc naturel, grâce aux dons qu'ils avaient reçus de leurs pires adversaires sur le terrain, le groupe de supporters des Taureaux de Turin.
De notre périple sur les rives du Danube, en Roumanie, en Bulgarie et en Serbie, ce sont des régions entières qui se sont vidées de leur population. Croissance démographique en berne, mais surtout exode massif des jeunes vers l'ouest de l'Europe. Les campagnes oubliées des Balkans, c'est le reportage de Simon Rico.
Comme tous les étés, c'est le même rituel pour Christiane. Il rentre chez lui dans le nord-est de la Roumanie pour retrouver sa famille. Le jeune trentenaire a quitté sa ville natale de Tulcea il y a déjà plus de 10 ans. Après une première expérience en Espagne, il travaille aujourd'hui dans la construction à Londres. Les bons mois, il peut gagner jusqu'à 2000 livres, alors pour lui, le compte est vite fait.
Avec les salaires roumains, c'est tout juste, si vous pouvez survivre. Et si vous avez de l'ambition, si vous voulez améliorer votre situation ici, c'est impossible. Économiquement, c'est très difficile. On vous empêche de mener à bien vos idées.
La femme de Christian est venue le rejoindre au Royaume-Uni il y a un peu plus d'un an et elle a vite trouvé un emploi comme femme de chambre dans un hôtel. À deux, ils se serrent les coudes pour économiser un maximum. Cette année, ils ont déjà réussi à mettre 8000 euros de côté, autant d'argent qui servira à l'éducation de leur fils. Pour l'instant, le garçonnet vit chez ses grands-parents maternels. Ses parents, ils ne les voient que deux fois par an, à l'été et à Noël. Le reste du temps, il leur parle tous les soirs grâce à Skype, mais Christian le reconnaît, il souffre de cet éloignement.
J'aimerais vraiment être tout le temps avec mon fils, mais je veux lui offrir une vie meilleure, lui offrir plus que la dure bataille pour survivre qui l'attend en Roumanie. Je veux lui payer ses études, je veux lui offrir une maison, je veux qu'il puisse avoir l'opportunité d'apprendre plus.
Tulcea, la grande cité industrielle à l'entrée du delta du Danube, là où Christian a grandi, se vide à vue d'œil. Ces 15 dernières années, plus de 20% des habitants sont partis. En réalité, quel que soit le pays, c'est tout l'arc danubien qui voit sa population émigrer vers l'ouest et le nord de l'Europe. À 600 km au sud-ouest de Tulcea, la ville bulgare de Vidin connaît la même tragédie. Rosen, la quarantaine, passe ses journées à s'occuper de son potager. Depuis son service militaire, il n'a quasiment jamais travaillé. Aujourd'hui, il vit avec sa femme et son fils de 16 ans grâce à l'argent que leur envoie sa mère, qui s'occupe de personnes âgées en Italie pour 1200 euros par mois.
L'intégration européenne, c'est sûr, ça aide. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait plus de travail. C'est mieux quand il y a du travail, parce qu'on peut gagner de l'argent. Sinon, on n'a rien du tout. Personnellement, je suis au chômage. Avec le socialisme, on ne pouvait pas franchir les frontières. Au moins, aujourd'hui, on peut bouger. Voilà au moins quelque chose de bien.
À quelques kilomètres de chez Rosen, un pont enjambe depuis 2013 le Danube pour rejoindre la Roumanie, puis encore plus au sud, le port grec de Thessalonique. Beaucoup de gens pensaient que cette nouvelle route désenclaverait Vidin et que la ville retrouverait un peu de sa prospérité passée. Mais il n'en est rien, les camions passent au loin sans jamais s'arrêter. Rosen espère que son fils ne suivra pas la même voie que lui. Il a d'ailleurs sa petite idée sur son avenir.
S'il réussit, tant mieux. Sinon, il ira en Europe. Je lui ai dit, si tu rates tes études, tu devras partir travailler au noir là-bas et tu vivras les mêmes galères que moi. Bien sûr, les études, ça ne lui garantit pas d'avoir du boulot. Mais s'il a un diplôme supérieur, il aura plus de chances de ne pas finir comme son père. S'il faut, je le ferai étudier de force.
De l'autre côté de la frontière, sur la rive serbe du méandre du Danube, la situation n'est pas meilleure. Les régions orientales de la Serbie sont elles aussi désertées. Ici, l'émigration est une vieille tradition, attestée depuis l'époque ottomane. On parlait alors de Petchalba, puis est venu le temps des départs vers l'Allemagne et l'Autriche dès les années 60. Après l'effondrement du système socialiste, les usines et les coopératives agricoles ont là aussi périclité. Dans le village vinicole de Rogljevo, les parcelles de vignes sont presque toutes envahies par les broussailles. Goran Jovanovic, l'un des derniers exploitants, se désespère de voir sa terre natale dépérir.
Tout ce qu'on voit autour de nous, il y a 30 ou 35 ans, c'était de la vigne. Il y avait de la vie, les gens passaient. On ne pouvait pas traverser une parcelle. Et même si le cousin du propriétaire vous avait donné l'autorisation, on vous aurait demandé ce que vous fichiez là. Aujourd'hui, on peut aller partout librement, il n'y a plus rien à abîmer.
Selon le dernier rapport de la Commission des Nations Unies sur la démographie, la population de tous les pays du sud-est de l'Europe va continuer à chuter d'ici 2050 à cause de la très faible natalité et de l'émigration massive des forces vives. Depuis la chute du régime communiste, la Roumanie a ainsi perdu plus de 3 millions d'habitants et près de 20% des Roumains travaillent actuellement à l'étranger. Spend my life on the streets. On them I did wrong, but I finally found
a place to call home. Cherche logement désespérément en Irlande, les loyers flambent et il manque cruellement des logements sociaux ou des foyers d'hébergement d'urgence pour les sans domicile fixe. Bonjour Julien Lagache à Dublin. Une situation de crise donc que le gouvernement n'arrive pas à enrayer.
Oui, un an après le lancement du plan Rebâtir l'Irlande, les choses ne s'améliorent pas vraiment. La promesse de redonner un toit durable aux sans-domicile fixe, de construire 47 000 logements sociaux d'ici à 2020 et de redynamiser le marché de la location, tout cela est certes en route, mais les pouvoirs publics restent de plus en plus souvent interpellés sur ces questions. L'Irlande vient de traverser une année noire en termes de chiffres et la crise du logement s'invite toutes les semaines en une des journaux. Sur la fin des vacances d'été, 4 personnes qui vivaient dans la rue à Dublin sont décédées et l'opinion est largement horrifiée d'apprendre ça en 2017.
Et qu'en est-il du gouvernement? Quelle est sa réaction face à une si mauvaise publicité?
Eh bien, le jeune ministre du Logement, en première ligne depuis sa nomination en juin, a organisé en urgence ce vendredi un sommet avec les collectivités publiques pour analyser les solutions immédiates et de long terme. Il en est ressorti avec la promesse de bâtir 20 000 maisons en plus d'ici 3 ans, d'ouvrir des lits supplémentaires dans les centres d'hébergement d'urgence et de mettre en place une meilleure coordination entre les différentes agences qui accompagnent les familles de SDF. Il pourrait aussi être question de taxer ou de préempter les logements vacants, mais le Premier ministre a prévenu, il n'y a pas une seule bonne idée, il faut un ensemble de mesures, sauf que c'est déjà ce que contenait le plan Rebâtir l'Irlande lancé l'an dernier. D'ailleurs, les associations sont prudentes et appellent à réfléchir plus globalement, tandis que de nombreux partis d'opposition ont tout simplement dénoncé une opération de communication.
Autrement dit, il n'y a pas un soutien massif à ces nouvelles annonces.
Pas vraiment, non. Et beaucoup de gens se montrent très critiques envers un gouvernement qui a pris les rênes du pays au tournant de l'austérité après la crise financière. Malgré un retour à une économie de croissance, il accuse les plus mauvais chiffres de l'histoire du pays sur le plan social. Plus de 92 000 personnes sont sur liste d'attente pour obtenir un logement social. Le nombre de sans-domicile fixe est sans précédent. Et pendant ce temps, le prix des loyers grimpe. Il a atteint une moyenne nationale de 1159 euros par mois. Une tendance qui n'est pas prête de s'arrêter car selon les dernières statistiques, cela fait maintenant 5 trimestres d'affilée que les loyers connaissent une inflation supérieure à 10%. En clair, il devient de plus en plus difficile de se loger correctement pour les budgets modestes. D'ailleurs, la colocation est devenue la norme à Dublin et il n'est pas rare de voir des actifs de tous âges vivre à plusieurs sous le même toit, voire de partager une chambre.
Merci Julien Lagache à Dublin. Les historiens britanniques aiment les vieux os. Depuis la découverte des ossements du roi Richard III sous un parking de la ville de Leicester, une vraie passion pour les restes royaux s'est emparée des universitaires. À Oxford, une poignée de chercheurs s'est attelée à la datation des restes de 8 monarques potentiels conservés en hauteur dans la cathédrale de Winchester. Marie Billon.
Les coffres mortuaires trônent toujours en haut des colonnes entourant le cœur de la cathédrale de Winchester. Un bien étrange spectacle que ces boîtes en forme de cercueil miniature, richement décorées d'écritures et de dessins colorés. Ils sont à plusieurs mètres de haut, curieux emplacement pour des tombeaux. C'est que ces 6 coffres sont spéciaux. Ils datent de la Renaissance, mais jusqu'en 2015, ils renfermaient notamment les ossements de plusieurs rois et une reine. Enfin, c'est justement ce que les spécialistes de l'université d'Oxford sont en train de vérifier. Ils ont pris les os pour les analyser et ont remis les coffres à leur place. Ils tentent donc désormais de savoir s'il s'agit bien des restes de 12 personnes haut placées, des évêques, mais donc surtout 8 rois, ayant vécu entre les 7e et 11e siècles. Parmi ces célèbres ossements, peut-être ceux de l'envahisseur viking Canute, mort en 1035, et le roi normand William II Rufus, le fils de Guillaume le Conquérant, mort d'un coup de flèche pendant une partie de chasse en 1100. 10 siècles plus tard, difficile de certifier qu'il s'agit bien là de reliques authentiques, car une chose est sûre, en 1642, pendant la Révolution, les antimonarchistes les ont sortis des coffres pour mieux marquer leur défiance à la couronne. Qui sait si les restes des monarques ont ensuite été correctement replacés ou si l'on a rempli ces boîtes avec tout et n'importe quoi. Depuis 2015, les scientifiques ont obtenu l'autorisation de chercher la vérité. Les ossements sont en train d'être datés au carbone 14 et les premiers résultats sont prometteurs. Oui, les os sont bien antérieurs au 12e siècle et si la recherche permet de pousser plus loin l'identification, les spécialistes pourront peut-être aussi recréer le visage de ces anciens rois.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. À demain.